ce nouveau numéro de Parlons Patrimoine, nous allons parler aujourd'hui du Temple Neuf de la paroisse. Et pour ce faire, nous accueillons aujourd'hui en studio le pasteur de la paroisse depuis 2012, Rudy Pop. Bonjour.
Bonjour.
Ravi de vous recevoir ici. Je sais que
Merci, vous êtes...
on va dire un pasteur 2.0, que vous faites des podcasts vidéo, que vous officiez également chez nos confrères d'RCF, donc un homme de radio, un homme de micro, un homme de parole, quoi qu'il en soit.
Merci.
Je vous en prie. Alors cette émission est proposée et animée, co-animée avec Yoav Rossano, en charge de la culture et du patrimoine ici, au sein du consistoire israélite du Bas-Rhin, qui nous propose régulièrement des visites de synagogues, de cimetières juifs dans le département. Alors jusqu'à aujourd'hui, nous faisons un focus sur le Temple Neuf de Strasbourg. On sort du patrimoine juif. Vous allez nous expliquer pourquoi. Bonjour Yoav.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Pour quelle raison aujourd'hui vous nous amenez cette charmante personne du pasteur Rudy Pop? J'ai compris que vous avez une relation amicale qui s'est créée entre vous. Mais au-delà de ça, par rapport au patrimoine de ce bâtiment-là précisément?
Alors, c'est vrai qu'on a parlé toujours de cimetières, de synagogues, de mikvés, de bars rituels, de choses comme ça. Mais en fait, tout ça, c'est autour des autres bâtiments, des autres institutions. Et en fait, c'est vrai, on est en très bon contact avec Rudy. Mmh. Et ça m'intéresse des côtés historiques aussi, savoir qu'est-ce qui s'est passé, comment c'était. Et voilà. Et plus tard, on peut parler de l'avenir aussi par rapport entre les relations entre les temples neufs et les grands, les synagogues, on peut dire, et l'activité culturelle juive.
Il y a des événements, donc le Temple Neuf accueille régulièrement des événements œcuméniques. Mm-hmm. On sait que le cercle Charles Péguy pour les relations judéo-chrétiennes-juives entretiennent régulièrement des rencontres. Il y a également, alors ça c'est peut-être plus original, c'est la rabbine Delphine Orviller qui a tenu une conférence à Antenois au sein du Temple Neuf. Mm-hmm. Ça c'est plus original, on l'attendait peut-être plus sur une synagogue. C'était une façon justement d'ouvrir à un plus grand public, monsieur le pasteur?
Absolument. Alors déjà, le fait que nous avons pu accueillir Delphine Orviller était simplement dû à la jauge qui est nécessaire pour accueillir son public. Nous avons des relations avec la communauté juive libérale et donc c'est à travers le contact que nous avons proposé que cet atelier tenois se fasse au Temple Neuf. Et c'est tout à fait à propos puisque c'est une étude publique, n'est-ce pas, qui s'inscrit dans la même démarche, n'est-ce pas, de la formation continue biblique. Et moi, j'en ai tout autant profité, j'allais presque dire, que toute l'Assemblée.
Comment justement a été accueilli un atelier tenois parmi les paroissiens protestants du Temple Neuf?
Très, très positivement.
Une réelle ouverture.
De toute façon, n'est-ce pas, il faut toujours se souvenir, et pour nos auditeurs en particulier, que la vie chrétienne ne peut se construire qu'à partir d'une connaissance de la Bible hébraïque. C'est quelque chose qui échappe à certains chrétiens d'ailleurs aussi, malheureusement, n'est-ce pas, que le Nouveau Testament est un commentaire de ce qu'on appelle l'Ancien Testament, donc la Bible hébraïque, et que sans connaissance approfondie, n'est-ce pas, de la tradition hébraïque, biblique et juive, eh ben, il est complètement impossible certainement de comprendre la moindre ligne du Nouveau Testament.
Alors, avant de parler de l'édifice du Temple Neuf qui se situe place du Temple Neuf à Strasbourg, je suis sûre que les auditeurs sont forcément passés devant. C'est relié au bâtiment, au gymnase Jean Stourm, qui a accueilli à un moment aussi l'université de Strasbourg. On y reviendra. On va parler un petit peu de votre parcours. Vous êtes pasteur depuis septembre 2012 ici à Strasbourg. Vous nous venez de Lorraine. On vous accueille quand même. Il n'y a pas de souci.
Ah bah de Champagne, attention.
Oui.
J'étais pasteur à Reims, alors les Rémois ne sont pas des Lorrains quand même.
Ah non, je parlais de Charleville-Mézières et Sedan.
Ah oui, Charleville, ça c'est encore plus au nord, n'est-ce pas? C'est l'ancienne Champagne-Ardenne, ce qui n'existe plus, c'est le Grand Est.
C'est le Grand Est, donc c'est la même région, mais vous êtes allemand de naissance?
Tout à fait.
De parents allemands?
J'ai grandi en Bavière et je suis venu en France parce que j'apprenais le français et puis d'une certaine manière ça a marché.
L'allemand est votre langue maternelle?
L'allemand est ma langue maternelle.
Oui, félicitations, ça ne s'entend pas du tout.
Ah ben, j'ai pas encore parlé allemand.
Mais quand vous parlez français, vous êtes bien aujourd'hui à Strasbourg. Qu'est-ce qui, on va dire, vous motive à votre présence à Strasbourg, à rester à Strasbourg, à développer cette paroisse?
Ben, disons que il y a l'aspect effectivement du ministère pastoral dans l'Union des Églises protestantes, où il y a aujourd'hui un enjeu que nos auditeurs comprennent évidemment, c'est que le protestantisme dans nos trois départements, en Alsace et en Moselle, n'est-ce pas, donc, est devant l'enjeu de se réorganiser, de trouver aussi un meilleur fonctionnement entre les temps pleins pasteurs et les laïcs, comme on dit, avec donc une réorganisation du territoire qui est assez importante à prévoir, dans un premier temps, parce que ben, c'est comme ça qu'une communauté religieuse fonctionne, n'est-ce pas? Il y a des personnes engagées bénévolement et d'autres qui les soutiennent, qui sont rémunérées, en l'occurrence par le ministère de l'Intérieur en République française, mais il y a aussi la diminution du corps pastoral qui est très importante aujourd'hui. Donc on parle à peu près de la perte d'un tiers des pasteurs en exercice par le fait qu'il y a un manque de renouvellement dans les 10 ans qui viennent. Et donc, c'est ça qui, moi, maintient aussi, en fait, m'inscrit dans le temps.
C'est de motiver aujourd'hui, pourtant il y a beaucoup d'étudiants en théologie protestante ici à Strasbourg, mais après s'engager dans ce ministère-là, particulièrement, c'est compliqué.
C'est compliqué. C'est, disons, ce qui déjà, et je pense que ça se voit dans toutes les communautés religieuses, n'est-ce pas, ce qui pose problème, c'est cette espèce de disponibilité totale qui ne convient pas forcément à tout le monde aujourd'hui. L'idée d'être en service en permanence quasiment, avec des conditions de vie parfois pas mirobolantes, on va dire, n'est-ce pas. Enfin, disons que moi, je vis très bien, mais je comprends aussi que, notamment des plus jeunes, sont sensibles à leur vie personnelle, et c'est vrai que dans un ministère à plein régime, comme on dit, n'est-ce pas, c'est toujours un mélange qui est un peu difficile à gérer, notamment quand on habite un presbytère, n'est-ce pas. Donc, quand on est à côté de l'église, il y a toutes sortes de sollicitations qui sont présentées.
Vous avez une vie de famille, hein, contrairement au ministère catholique. Oui. Vous avez une vie de famille, vous êtes marié, vous avez 8 enfants.
Il semble,
bravo, oui. Félicitations.
Ben surtout madame, oui.
aussi. Vous faites face aussi, vous, on va dire, à la baisse du nombre de paroissiens qui fréquentent votre établissement?
Bien sûr. Disons que sur Strasbourg, on a une situation dans le protestantisme qui est un peu particulière, puisque historiquement, donc, le protestantisme est très, divisé, en fait, n'est-ce pas? Il y a sur l'Euro métropole une cinquantaine de communautés luthériennes et réformées, donc qui relèvent de l'Union des Églises protestantes, pour un public de à peu près 50 000 personnes. Donc, ce qui fait que chaque communauté, numériquement, est déjà très, très petite et parfois n'est plus viable aujourd'hui. Ce n'est pas le cas du Temple Neuf. On a de la chance qu'au centre-ville, il y a une forme donc, de superposition de communautés. Il y a des personnes qui viennent aussi d'autres traditions, y compris la tradition juive, qui participent à certaines activités. Et donc, on a développé en fait un mode de vie communautaire qui met un peu la question confessionnelle de côté. Hein. On essaye de se retrouver sur ce qui nourrit la vie, ce qui construit la vie et de le vivre ensemble. Et donc, du coup, la question n'est pas est-ce qu'on est entre protestants, entre chrétiens, etc. Mais tout le monde est accueilli tel qu'il est, ce qui aide évidemment à faire vivre une vie communautaire. Mais c'est vrai que dans d'autres lieux, c'est un véritable problème, il y a une chute.
C'est lié ça au protestantisme, justement, cette ouverture à l'autre et l'ouverture de cette communauté particulièrement ?
Alors, je ne crois pas qu'on puisse vraiment dire que c'est systématiquement une démarche protestante, parce que vous avez bien dans l'histoire, y compris au Temple Neuf d'ailleurs, une sorte de refermement, un entre-soi, n'est-ce pas, qui est cultivé et qui, pour beaucoup de protestants, n'est-ce pas, est encore actuel aujourd'hui, n'est-ce pas. Il vaut mieux rester avec les cousins, on va dire, n'est-ce pas. Donc, mais c'est une démarche, en fait, qui relève d'une décision communautaire, de dire que nous voulons être un lieu qui est ouvert et qui sert, en fait, à animer plutôt la vie qu'une religion, n'est-ce pas. Pour moi, c'est un terme très compliqué à utiliser en langue française. On parle toujours de religion, mais on ne sait pas très bien ce qu'on veut dire par religion, n'est-ce pas. Pour moi, il s'agit de se relier à la vie. Et donc, à ce moment-là, on accueille tous ceux qui vivent avec nous. Et c'est ça, le principe même de notre activité.
Alors, présentation de l'édifice, on va y venir. Alors aujourd'hui, attachée à l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine. Elle a été construite à la suite de l'incendie du 24 août 1870, un bombardement alors que la France entrait en guerre par les Allemands. Ils paieront ensuite la reconstruction de l'édifice. Aujourd'hui, cette église, qu'est-ce qu'elle a de commun avec le premier édifice qui appartenait aux Dominicains?
Très peu. En fait,
le matériau, le grès rose, hein.
Le grès rose, encore, on n'en sait pas grand-chose. L'ancienne église des Dominicains, n'est-ce pas, date grosso modo du XIVe siècle, était une église très, très biscornue, n'est-ce pas, parce que c'était une église à double nef qui avait été agrandie au milieu du XIVe siècle, et avec un chœur. Et donc, du temps de l'activité du couvent dominicain, donc jusqu'au début du XVIe siècle, le chœur était réservé aux frères, et la nef était donc le lieu de la prédication de quelques grands prédicateurs d'ailleurs, dont on garde la mémoire encore, Maître Eckhart, frère Tauler, etc. Et donc, quand la communauté a cessé d'exister, au début en fait du temps qu'on appelle la réforme protestante, l'église a été abandonnée, n'est-ce pas, la partie conventuelle, donc le site où se trouvaient les salles des moines et les cellules, etc., est devenu la haute école, donc future université de Strasbourg, aujourd'hui le gymnase Jean Sturm. Le chœur a été utilisé pour accueillir une communauté de réfugiés qui venaient principalement de Lorraine, de France, et aussi des Pays-Bas, et qui étaient donc des protestants non germanophones. Donc il fallait un pasteur qui puisse leur parler. Ils ont trouvé Jean Calvin, qui était venu donc dans les années 1538-41, et qui a fondé au Temple Neuf donc la première communauté calviniste au monde, ce qui fait qu'aujourd'hui encore il y a des presbytériens de Corée, etc., qui viennent s'agenouiller sur le lieu de la fondation du calvinisme. Enfin, on n'en est pas forcément très fiers, n'est-ce pas, du calvinisme toujours. Mais
c'est deux grands courants dans le protestantisme, c'est les calvinistes et la confession d'Augsbourg.
Hein. C'est ça. Exactement, tout à fait. Donc, pour nos auditeurs, c'est le protestantisme francophone, n'est-ce pas, de tradition calvinienne. Et donc, bien sûr, Calvin, il est parti après à Genève, il a fait sa vie. Et donc, le Temple Neuf, qui était nommé comme cela autour de la Révolution française, n'est-ce pas, était donc repris par la communauté luthérienne de la cathédrale, une fois que Strasbourg était devenu français, hein, en 1681. La communauté de la cathédrale doit quitter les lieux afin que l'évêque puisse prendre possession de son Münster. Et donc, c'est là que le Temple Neuf, la Neukirche en alsacien, n'est-ce pas, devient un lieu de culte donc luthérien, et il est resté depuis. Entre les deux bâtiments, donc il n'y a effectivement pas grand-chose à voir. L'ancien Temple Neuf, l'ancienne église des Dominicains, avait donc une orientation à travers des colonnes, puisqu'il y avait donc cette séparation en en deux nefs, l'acoustique n'a pas dû être terrible à mon avis. Et donc un des objectifs à la reconstruction, c'était de construire une église qui fonctionne bien, n'est-ce pas, qui a une acoustique correcte, etc. Donc je ne sais pas totalement, je suis pas totalement sûr que ça soit réussi, mais enfin c'était un style français d'ailleurs qui a été choisi à l'époque, ce style néo-byzantin qui a été créé aux Beaux-Arts à Paris et qui d'ailleurs servait davantage aux églises catholiques de France et qui a été recyclé par l'architecte donc Émile Salomon, qui était strasbourgeois, pour ce bâtiment du nouveau Temple Neuf dont on va fêter en 2027 les 150 ans.
Ah. Mmh. Un consistoire à lui seul, ce Temple Neuf.
Tout à fait, donc ça c'était le fonctionnement, n'est-ce pas, des cultes reconnus que Napoléon a mis en place. À partir de 6000 âmes, comme on disait, n'est-ce pas, un consistoire était formé. Il se trouve que la communauté du Temple Neuf à l'époque, avec plusieurs paroisses, formait un seul consistoire et était donc la plus grosse paroisse de France, on peut le dire. Hein. Donc c'est plus le cas aujourd'hui.
Ah, c'est pas un héritage que vous avez récupéré.
Non, c'est 6000 âmes, je les retrouve pas. Je les retrouve pas.
Alors pour revenir au bâtiment, alors on va demander à Yoav, oui. Qui a été particulièrement séduit par ce bâtiment et qui avait envie d'en parler aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a de remarquable et qu'est-ce que vous aviez envie de mettre en avant?
Alors je pense que c'est bien si tu essaies de faire un voyage un peu virtuel.
Oui, et... visuel. Oui.
Et voilà, pour nous montrer, parce qu'en fait... Pas tous les Juifs pourraient entrer dans l'église.
Tout à fait. Exact.
Et c'est un endroit qui est quand même très très particulier.
Alors, déjà...
Côté visible et côté invisible.
Ah, alors, c'est plus compliqué de décrire l'invisible. Oui.
Voilà.
Mais disons que il faut imaginer un peu un style roman, n'est-ce pas? Donc le roman, c'est les ronds. Mm. C'est donc des arcs qui sont sur les côtés. Il y a des travées, 5 travées, n'est-ce pas? Donc, et ce qui est très marquant, une façade intérieure. Donc là où dans d'autres églises chrétiennes, il y a un chœur, n'est-ce pas? Donc un espace qui se prolonge, eh ben, au Temple Neuf, il y a un mur qui est voulu parce que le bâtiment à la reconstruction a été coupé en deux, n'est-ce pas? Donc le chœur qui appartenait à la haute école, c'est devenu un immeuble qui est juste à côté. Et donc la partie nef, entre guillemets, est devenue le nouveau Temple Neuf et donc du coup est beaucoup plus court que l'ancien Temple Neuf. Et donc cette façade, elle sert à en quelque sorte délimiter cet espace. Et ce qui est effectivement marquant, c'est la chaleur d'abord de la pierre. Donc ce grès des Vosges qui certes à l'intérieur a un peu souffert parce qu'on a longtemps illuminé l'église au gaz et donc ça a laissé des traces un peu de grisaille, mais aujourd'hui on a fait un effort en éclairage, n'est-ce pas, on a une mise en lumière qui rend un peu cette chaleur à la pierre aussi. Ouais. Et ensuite on ajoute à cela le bois, on a un bois très clair, en fait c'est du hêtre, à la fois pour le parquet et pour le mobilier. Aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, on a un mobilier mobile, des chaises et des tables en hêtre, ce qui donne effectivement à l'espace une sorte de clarté, une chaleur agréable, et donc avec bien sûr une forme de proximité. L'espace n'est pas très grand, hein, c'est à peu près, si on prend le carré central, c'est 20 mètres sur 20 mètres, donc c'est pas énorme, hein, donc on peut construire une forme de proximité, ce qu'on a voulu faire notamment en créant habituellement notre espace de célébration autour d'une table ronde centrale, donc en cercle. Donc quand on est assis ensemble, on est assis en cercle autour d'une table où l'officiant se tient à la table et l'assemblée l'entoure en cercle. Ce qui évidemment donne une atmosphère tout à fait différente.
Il y a un hôtel quand même au fond de l'hôtel, l'édifice,
bien sûr. Plus,
il sert plus du tout. Hein,
parce que la table fait fonction d'hôtel, de table de communion, comme on dit chez les protestants aussi. Hein, et donc l'hôtel, il est dans le décor, on va dire, n'est-ce pas? Donc l'ancienne chaire qui est dominante, on ne l'utilise plus non plus.
Depuis quand en fait?
Ça remonte déjà un tout petit peu parce que tout simplement pour des raisons acoustiques, c'était plus nécessaire, n'est-ce pas? Donc une chaire dans une église chrétienne, c'est un micro au Moyen-Âge, n'est-ce pas? Ça sert à amplifier la voix avec la bas-voix qui est au-dessus de la tête du prédicateur. Et donc depuis qu'on a un micro qui fonctionne, c'est plus vraiment intéressant de monter dans la chaire. Moi, je suis monté quelques fois depuis que je suis pasteur au Temple Neuf. Je pense que mes prédécesseurs l'avaient déjà abandonné. D'accord. Parce que tout simplement, c'était plus nécessaire de se cacher quelque quelque part au fond du bâtiment, quand on veut parler personnellement à des personnes, c'est pas la méthode la plus efficace.
Et en termes d'œuvres d'art, de vitraux, de statues, de peintures, vous avez des possessions dont vous êtes fier?
Alors il y a le principe dans une église protestante, c'est que cela ne sert à rien, n'est-ce pas? Donc on peut avoir, bien sûr, il y a beaucoup d'églises protestantes qui ont des belles peintures, par exemple de scènes bibliques dans beaucoup d'églises, mais ça n'a pas de statut liturgique, surtout des statues de par exemple la Vierge, donc comme dans une église catholique, ça n'existe pas dans le protestantisme.
Un peu plus proche comme synagogue, en fait.
Ouais, c'est ça. C'est très sobre. Ouais. Par contre, au Temple Neuf, il y a une curiosité. C'est qu'il y a les anciens responsables d'église et pasteurs qui ont leur buste. Alors ça peut paraître complètement absurde. Pourquoi l'ancien président du consistoire, il a son buste, par exemple, n'est-ce pas? Donc, sur le côté du Temple Neuf, c'est le 19e siècle, tout simplement, n'est-ce pas? On avait ce rapport à la gloire ou à la personnalité des gens. Et puis, bon, voilà, c'est tout. On les a gardés. Alors, on a une pièce sur laquelle on peut effectivement revenir et dont on est un peu fier quand même. C'est la pierre tombale de Jean Tauler, le grand prédicateur dominicain, qui a été en fait pas du tout installé dans ce nouveau temple neuf initialement, mais qui a été retrouvé dans les décombres, on va dire, de l'ancien cloître, l'ancien couvent des Dominicains, et parce que ça effectivement, ça a une valeur patrimoniale, on l'a collé un peu comme un chewing-gum dans un coin du nouveau Temple Neuf. J'en ai encore un peu honte quand les frères dominicains, par exemple, qui viennent régulièrement à Strasbourg montrer cette belle pierre tombale qui date de 1361, donc c'est vraiment un événement patrimonial avec le visage, la figure en fait de Jean Tauler. Eh bien, malheureusement, on la présente assez mal avec un éclairage acheté IKEA. Donc, franchement, j'en ai un peu honte, là.
Comment est-ce que vous vivez cette effervescence des fêtes de l'Avent, du marché de Noël à Strasbourg? On va dire, cette foire commerciale, quand même. Est-ce qu'aujourd'hui, elle est religieuse? Elle ne l'est pas. Vous êtes quand même, vous situez place du Temple Neuf où un marché se déploie, encore qu'il est assez authentique, celui-là. Comment est-ce que vous, en tant qu'homme d'église, vous le vivez, ça?
Alors, d'abord, dans le même esprit d'ouverture que toute l'année, n'est-ce pas? Donc, moi, je vois les personnes dans le marché, n'est-ce pas? Donc, il y a un public, visiblement, d'ailleurs, il y a un public qui aime se rendre dans ce type d'événement, qui participe à ce type d'événement, et qui, anecdotiquement, d'une certaine manière, se rend aussi dans les églises pour cette opportunité, n'est-ce pas? Donc, nous, on ouvre le Temple Neuf à ce moment-là pour une exposition, pour proposer une petite démarche, une sorte d'itinéraire à l'intérieur du bâtiment, ce qui est déjà apprécié puisque c'est chauffé, donc les gens rentrent volontiers pour se laisser en quelque sorte distraire du marché commercial, etc. Alors ce qu'il faut dire tout de suite aussi, c'est que ce qui est un peu choquant, c'est que 95% de ces gens-là rentrent dans le Temple Neuf en disant « Ah, c'est la cathédrale !» Alors là, c'est toujours
c'est presque flatteur.
Bah oui, c'est à la fois, on peut dire, tant mieux, mais en même temps, non, c'est un peu dommage parce que du coup, après 10 secondes, quand ils se rendent compte que ce n'est pas la cathédrale, souvent ils repartent.
Ils sont quand même, ces personnes-là, ces visiteurs du marché de Noël, de Strasbourg, capitale de Noël, sous ces mille feux de guirlandes, sont quand même à la recherche d'une forme de spiritualité et sur les traces de la naissance du Christ.
Là, je suis un peu prudent, n'est-ce pas? Donc, le terme spiritualité est là encore difficile à employer. Ils cherchent à vivre, n'est-ce pas? Donc, ce qui nous unit tous, au-delà de toutes sortes de confessions, de foi, etc., c'est le besoin de sentir qu'on est vivant. Et c'est ça, en fait, que le marché de Noël offre. On sent qu'on est vivant pour un moment particulier dans l'année, dans la vie. Et donc, si un bâtiment ou une communauté comme celle du Temple Neuf peut participer à cette découverte des personnes d'êtres vivants, et bien tant mieux. Avec, bien sûr, l'appui de la tradition biblique, on essaye, en tout cas, pour le marché de Noël en particulier, d'apporter un éclairage biblique.
Pasteur Rudy Pop, des projets à venir, des projets partagés peut-être avec le consistoire israélite?
Déjà on a fait, non?
Ouais. Vas-y.
Le projet qu'on a réalisé ici, le golem, était réalisé au Temple Neuf.
On a pu accueillir donc l'orchestre.
Le No Limit Orchestra.
No Limit pour cette projection et avec un film très, très exigeant. Mm-hmm. Donc ça, c'est à refaire très bien. Il y a aussi, bien sûr, tout ce que l'on appelle le travail interreligieux, même si j'aime pas beaucoup ce terme, où pour moi, il est primordial, en fait, de réunir les personnes qui se rendent dans différents lieux de culte à Strasbourg pour, de temps à autre, au moins, se retrouver ensemble et de parler de ce que l'on vit, de ce que l'on reçoit, de ce que l'on donne à une génération future, etc. Donc ça, c'est un vrai souci. Moi, je m'occupe d'un petit groupe qui s'appelle Le Pont, où, d'ailleurs, avec le soutien aussi du rabbinat, on a pu mettre en place donc des parcours pédagogiques. On a organisé un café des religions pour découvrir, tout simplement, comment on vit quand on est quand on a une éducation religieuse, quand on a des convictions religieuses, etc. Et donc tout cela, c'est à étoffer dans le contexte de la ville d'aujourd'hui. On le fait avec, bien sûr, d'autres religions encore, qui ont parfois un langage différent. Hein. C'est clair qu'entre la tradition hébraïque et la tradition chrétienne, ça matche plus facilement parce que on a une référence qui nous unit et qui est la Bible, mais ça n'empêche qu'avec les musulmans, avec les bouddhistes, avec les bahaïs, avec beaucoup d'autres traditions encore, on vit ensemble dans la ville. Et donc, c'est cela qui nous réunit aussi.
Donc, c'est pas vain ce mot, on va dire, de vivre ensemble ou d'interreligieux, parce que c'est un mot qui est parfois galvaudé, parce qu'on a l'impression qu'il y a des communautés qui ont du mal. Et puis là, en fait, c'est la preuve entre Yoav Rossano et qui porte tout le consistoire israélien du Bas-Rhin. Et vous, monsieur le pasteur Rudy Pop, de l'Union des protestants, l'UEPAL, c'est un petit peu compliqué à dire pour moi.
L'UEPAL, oui.
Voilà. Monstre. Qu'est-ce qu'on vous souhaite? On arrive au terme de cette émission, on a fait le tour, évidemment, j'invite nos auditeurs à se rendre au temple et puis d'aller poser des questions et d'aller voir et la statue de Jean Toller, etc., ce dont vous nous avez parlé, d'aller vivre dans les lieux et d'échanger. Mais pour vous, qu'est-ce qu'on vous souhaite?
Peut-être, je peux dire ça en dernier, n'est-ce pas? Donc, quand notamment une personne d'éducation juive entre dans le Temple Neuf, il est parfois surprise de voir une menorah qui est posée sur l'ancien autel, devant la croix. Donc c'est un symbole liturgique qui est assez commun dans les églises luthériennes, une menorah qui est utilisée dans les espaces liturgiques protestants, mais que nous avons joint en fait avec la croix. Donc la menorah éclaire la croix. La Bible hébraïque éclaire le Nouveau Testament. Et je souhaite peut-être à nos auditeurs de découvrir cette réalité, n'est-ce pas ? C'est que dans une communauté chrétienne, vivre avec des juifs pratiquants, des juifs qui apportent et qui portent leur tradition, c'est très important parce que c'est cela qui nous permet tout simplement de comprendre qui nous sommes.
Monsieur le pasteur Rudy Pop, merci infiniment d'être venu nous voir dans notre émission avec Yoav Rossano. Parlons patrimoine et cette semaine, nous parlions une église, un temple neuf.
On dit l'église du temple neuf.
L'église du temple neuf, parce qu'on ne peut pas dire le temple du temple neuf. C'est entendu en problème d'étymologie. On va reprendre ça. Merci en tous les cas.
Merci
les deux.
Beaucoup. Merci.